Le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, en partenariat avec Procivis, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien bonsoir les amis, voilà, je reprends l'antenne, il est 18h04, je reboucle bien évidemment, on va bientôt conclure ce congrès et je vais ne pas bouder mon plaisir puisque c'est quelqu'un qui d'ailleurs qui nous a vu naître à Web Radio Édition et dans nos radios, qui nous a toujours accueillis avec beaucoup de gentillesse. Il a été président emblématique de la Fédération Française du Bâtiment, il est président de la SMABTP, mais avant tout, c'est un entrepreneur à la tête de l'entreprise éponyme puisque c'est Jacques Chanu qui est avec nous.
Bonjour.
Bonjour Jacques, merci d'être avec nous. Jacques, on se connaît bien, on a vu les évolutions ces dernières années, avec pas toujours finalement beaucoup de sérénité dans une certaine mesure. On voit s'enfoncer une industrie, la construction, dans un marasme. Les alertes ont été données depuis plusieurs mois d'ailleurs. Et on n'a pas l'impression réellement que le marché, en termes de politique structurelle, j'entends bien de politique structurelle pérenne, lié à la temporalité des mécanismes de nos professions, on aurait presque l'impression que nous avons un gouvernement un peu hors sol ou déconnecté d'une certaine réalité. Moi, j'ai envie de vous poser la question directement, pour être très clair. Faut-il encore attendre quelque chose de cet exécutif ?
Je pense, enfin, là, je parle évidemment à titre personnel hein, et non pas au nom de la SMABTP, mais la SMABTP est une vigie hein, de nos marchés, puisque en étant leader sur l'assurance de la construction, évidemment, on a aussi bien les promoteurs, les bailleurs sociaux que les entreprises de construction, tout ce qui tourne autour de la filière. Et donc, on voit effectivement que, de manière très objective, on a un vrai sujet d'effondrement du marché qui est sur le neuf, aussi bien le privé et le social. Par rapport à votre remarque sur un gouvernement qui ne comprend pas, moi, je ne peux pas entendre ça. Je ne peux pas croire que le gouvernement ne sait pas ce qui est en train de se passer. Je pense que malheureusement, il y a beaucoup plus de cynisme que d'incompréhension. Le cynisme, pourquoi ? Parce que on ne réinvente pas une crise de l'immobilier. On connaît très bien tous, et au gouvernement, sans doute, j'espère en tout cas, et à Bercy mieux qu'ailleurs, le mécanisme de la crise et ces éléments hein, constitutifs de cette crise, on les connaît, on sait comment ça marche. Et là, on est en plein dedans. Et on n'est pas en plein dedans depuis quelques mois, mon cher Sylvain. Ça fait pratiquement 2 ou 3 ans que l'on voit un certain nombre de chiffres sur une courbe et que nous sommes un certain nombre. Pas forcément d'ailleurs...
Et vous aviez d'ailleurs lancé l'alerte, rappelez-vous, à plusieurs reprises, quand vous étiez encore à la tête de la FFB.
Oui, on a...
Vous n'avez pas ménagé vos actions auprès de l'exécutif, d'ailleurs.
Voilà, mais après, il y a eu l'épisode Covid qui a balayé un petit peu tous les arguments.
Bien sûr.
Puisqu'on était sur une politique de relance, de rattrapage des chantiers. Et donc, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas eu non plus, au niveau de la filière, étant donné qu'on était un peu en sur-régime, hein, pour dire les choses, une prise de conscience évidente que les choses allaient changer. Bon, là, maintenant, aujourd'hui, je crois qu'il faut arrêter les périodes de diagnostic et de constat. Hein, on est dedans, voilà. Quand je parle de cynisme, c'est que lorsqu'on a les constats, lorsqu'on a l'histoire, lorsqu'on a le pouvoir de faire changer les choses et qu'on ne le fait pas, ben c'est qu'on ne veut pas le faire. Et donc, tous les discours un peu larmoyants récents hein, de certains nombres d'hommes politiques sur la bombe sociale, y compris de notre ministre hein, du Logement, qui
Absolument.
En parle très, très librement,
Absolument.
De membres de la majorité, d'anciens Premier ministre. Enfin, les amis, je veux bien tout entendre. Mais la bombe sociale est une conséquence d'un événement qu'on peut encore éviter. Donc de dénoncer un événement alors qu'on peut agir pour l'éviter, je suis désolé, c'est là où c'est du cynisme. En fait, la réalité, elle est simple. Hein. C'est qu'on veut essayer d'économiser 2 milliards à 2,5 milliards sur le budget du logement et que pour ça, on est prêt à sacrifier, ce que j'espère temporairement, toute une filière. Et avec un argument qui est fallacieux, qui est de dire cette filière étant en sur-régime, les prix sont trop hauts et donc si on la pénalise sur son activité, les prix vont baisser. On sait tous ici, et eux aussi, que tout ça ne sera que temporaire. Les prix baissent parce que le marché est toujours du sidéré, totalement à l'arrêt. Donc un certain nombre de propriétaires baissent, mais le prix de vente. Mais ce n'est pas pour ça que ça se vend mieux. Hein. Ce n'est pas qu'une histoire de prix, ce n'est pas une histoire de prix qui fait que ça ne se vend pas. Donc c'est une histoire de financement, c'est une histoire de confiance, c'est
Bien
une
sûr.
Histoire de rentabilité
Bien
par rapport
sûr.
À la location.
Bien sûr.
Mais par contre, l'effet premier que ça a, c'est que ça bloque le marché de la location pour les Français. Donc là aussi, quand je parle de cynisme, de dire il faut aller au bout de l'explication, je veux faire baisser les prix, mais je vais planter le marché de la location. C'est ça ? qu'on dit. Non. C'est là où il faut aller au bout du raisonnement. Deuxièmement, au niveau budgétaire, moi, je suis un petit chef d'entreprise. Mais s'il faut dépenser 2 pour en gagner 14 l'année d'après, je suis d'accord.
Tout à fait.
Or là, c'est ce qui va se passer. C'est qu'on va vouloir économiser 2 milliards ou 2 milliards et demi pour entre 10 et 14 milliards de recettes en moins l'année prochaine. Voilà. Donc c'est une gestion à la petite semaine. C'est une gestion politique, à mon avis, pas très courageuse. Mais en fait, tout le monde est tétanisé parce qu'il n'y a pas de décision tout en haut.
Vous vous rendez compte, Jacques, ouais. Que ce que vous dites est sidérant.
Non, mais c'est pas sidérant. Enfin,
c'est stupéfiant. Parce qu'on aurait pu accuser d'incurie ou d'incompétence hommes politiques, mais c'est pire.
Non, mais attendez, il faut arrêter de dire les hommes politiques ne comprennent pas. Le ministre de l'économie est un homme brillant, c'est un homme intelligent. Le ministre du logement est un élu local qui connaît très bien la situation et qui connaît très bien le logement. Il en a même fait une thèse. Je ne suis pas d'accord avec la conclusion de sa thèse.
Bien sûr.
Et d'ailleurs, l'histoire nous a plus donné raison à nous qu'à lui là-dessus, mais qu'importe. Donc, il n'y a pas une histoire d'incompétence. C'est une histoire pour moi, d'un choix politique fort qui est un choix budgétaire de court terme et qui se fait au détriment. Mais s'ils avaient les milliards, je suis sûr qu'ils nous les donneraient. Hein. Ce n'est pas le sujet. Mais le problème, c'est un arbitrage.
C'est un arbitrage.
Ah oui. Donc ils ont fait un choix politique. Ce n'est pas par manque de connaissances.
On tue une industrie.
Voilà, j'espère pas la tuer.
Mais en tout cas,
on pénalise fortement une industrie.
Les journalistes caricaturent toujours un peu, mais quand on voit Olivier Salleron qui ne ménage pas non plus ses efforts,
absolument.
Quand il y a plusieurs centaines de milliers d'emplois menacés, ouais. Détruits à terme, une industrie de la promotion immobilière qui est en train de s'effondrer, vous le savez, vous connaissez les chiffres, je les ai sous les yeux,
ouais, mais
entre 30 et 40% de baisse dans certaines régions, et dans certaines régions, ça va même plus loin. Je vais vous donner deux autres chiffres. 12% des étudiants, moi, ces plans n'ont pas trouvé de logement, ont renoncé leurs études. 17% des contrats à durée indéterminée pour des jeunes actifs n'ont pas été signés, faute de logement.
Sylvain, le sujet, c'est que les chiffres, ils s'en fichent. En fait, le vrai sujet, c'est moi, j'avais quelques espoirs concernant les étudiants parce que le symbole était très fort. Ça pouvait même être un peu éruptif, hein, pour être tout à fait honnête. Puis bizarrement, on est passé à un autre sujet. Par rapport à une époque qu'on a bien connue tous les deux, on voit bien que les sujets d'actualité tournent de plus en plus vite. Le sujet du logement des étudiants a été beaucoup trop vite, à mon avis, évacué. Et pourtant, il reste. Mais en attendant, le sujet du logement de cette année, qui a peut-être duré 3 jours, il va être multiplié par 2 ou par 3 l'année prochaine. Donc, quand on dit que faire de la politique, c'est prévoir l'avenir, je trouve que là, et je suis sûr qu'ils le savent.
Mais le défaut de logement, est-ce que c'est mobilisateur à faire descendre les gens?
Non.
Est-ce qu'on craint une
gilet-jaunisation? Mais pas tout de suite.
Pas tout de suite.
Mais j'y crois pas. Pas tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, le marché est sidéré. Donc ceux qui sont ceux qui sont en difficulté, ce sont ceux qui cherchent un logement pour la première fois. D'accord ? Mais par contre, à partir de l'année prochaine, il y a ceux en plus qui chercheront pour la première fois. Et puis, il y a ceux qui en auront besoin, qui vont chercher pour la deuxième fois. Et aujourd'hui, qui ne trouvent pas, parce qu'il n'y a pas d'offre. Quand vous commencez à voir sur une agence immobilière en région parisienne, je ne dis même pas à Paris, ici, nous n'avons plus d'offres à louer. Je ne l'ai jamais vu. Hein. Je commence à être un vieux machin. Hein.
Moi aussi, je ne l'ai jamais vu.
Donc, la situation locative est celle qui va être éruptive. Vous ne ferez jamais pleurer dans les chaumières au niveau politique parce qu'un promoteur n'a pas de travail.
Je comprends.
Parce qu'un entrepreneur, voilà. Par contre, les gens qui ne trouvent pas de logement, ça devient un problème politique.
C'est autre chose.
Parce que ça devient un sujet éruptif. Mais c'est un temps long. L'éruption autour du logement, ce n'est pas comme sur l'alimentation. C'est un temps long.
Je comprends.
C'est-à-dire que c'est au moment d'un changement de vie, d'une évolution, que vous avez des gens qui peuvent monter. Malheureusement, je pense que la prise de conscience politique, donc médiatique, arrivera parce qu'il va y avoir un événement, je ne sais pas lequel, qui va peut-être incarner ce qui se passe en termes de politique de logement pour les jeunes, peut-être à la campagne, peut-être dans les quartiers, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est assis sur une bombe, ça c'est clair, je crois que tout le monde le dit, mais qu'on essaye de retarder l'explosion de cette bombe. Quand elle va exploser, ça va coûter 2 à 3 fois plus cher. C'est en ça que je dis c'est du cynisme, parce que ce qu'on ne dépense pas aujourd'hui, ils savent très bien qu'il faudra qu'ils le dépensent demain, mais qu'il faudra 2, 3 ou 4 ans pour relancer.
Alors, je vais vous citer Michel Rocard.
Oui.
Qui disait toujours privilégier l'hypothèse de la connerie car elle est courante, car l'hypothèse du complot demande un esprit rare.
Mais je ne crois pas au complot
donc,
non plus.
Donc, ce que je veux dire, c'est que...
Vous avez raison.
Non, mais c'est une vraie question qu'on se pose. Il le voit bien.
Oui.
Il y a eu plus de 100 000 étudiants à la rue. J'ai fait le point des aides au logement pour les jeunes étudiants et les aides au logement, les aides à la voiture électrique. Mais il y en a plus pour la voiture électrique. Donc, j'ai fait un article au Vitriol qui disait, j'ai trouvé le remède à la crise du logement.
Dormez dans vos bagnoles.
Dormez dans votre voiture électrique. Non, mais attendez, Jacques, à un moment donné, on va un peu redescendre. Et la vraie question que se posent d'ailleurs tous les journalistes, c'est la surdité. Nous avions Patrice Vergriete sur le plateau, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, au speed dating d'Arkea, qui disait, je lui disais, mais monsieur le ministre, vous n'êtes pas sourd à cela. J'avais envie de lui poser la question, quand est-ce qu'il allait remettre sa démission avec le désaveu qu'il est rentrant. Vous avez vu que le ministère du Logement a été renié. Sabrina Agresti-Roubache a pris une partie. Ouais. On a Patrice Vergriete qui a pris une partie, qui est un bon maire. On disait aussi d'Olivier Klein qu'il avait été un bon maire.
Absolument.
Vous avez connu Julien Normandie, avec qui vous avez d'excellentes relations.
Oui, mais avec Olivier Klein aussi.
Et qui avait été un très bon, aussi un très bon ministre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un ministère de logement pour la façade?
Non, ça...
Il fera quoi?
Ça veut dire que, là aussi, je parle vraiment en mon nom. Hein.
Oui, oui. Non,
je pense que le sujet du logement est un sujet budgétaire et que le logement devrait être sous la tutelle de Bercy directement. Ce n'est pas la peine de se mentir. On le met sous la tutelle du développement durable. Parce qu'il y a un enjeu de développement durable sur le logement, sur
bien
la
sûr.
Construction. C'est une évidence.
Bien sûr.
Mais regardez l'industrie. Le sujet de l'industrie, le secrétaire d'État à l'industrie, il est où? Il est à Bercy.
Oui, ça
je pense que ce sujet du logement, qui est aujourd'hui un sujet uniquement budgétaire, qu'on arrête de nous sortir tout un tas d'explications techniques et autres. Le sujet, c'est qu'on ne veut pas mettre d'argent dans la politique du logement. Donc, puisque c'est un sujet budgétaire, je préférerais un ministre ou un secrétaire d'État, s'en fiche du titre, qui soit au cœur du réacteur, c'est-à-dire à Bercy, dans les finances. Et à ce moment-là, ça serait pour moi un signe de reconnaissance. Voilà, ce sont des petites choses. Parce que là on est vraiment dans l'organisation politique. C'est là où, quand vous vivez avec des gens en permanence, je pense que l'influence est un petit peu différente que quand vous êtes un ministère un peu éloigné et que vous n'êtes même pas, d'ailleurs, à la table des ministres tous les mercredis. Parce que ça aussi, c'est...
Ou alors un ministère comme l'a eu Jean-Louis Borloo, de plein exercice, plénipotentiaire, avec un pouvoir galère.
Oui, mais des Jean-Louis Borloo, avec quoi politique qu'ils avaient à l'époque,
ça
n'existe plus, hein, il faut quand même le dire.
Troisième gouvernement, ne rien espérer avec le gouvernement actuel.
Je ne dis pas de rien espérer. Je dis simplement qu'il faut qu'on sorte de ce discours de dire « j'ai bien entendu, on va se réunir, on va trouver des solutions, oui, j'entends ». Non, mais ok.
Ou alors je vais faire une conférence nouvelle.
Ouais, non. Parce que ce dont on a besoin, mon cher Sylvain, c'est d'argent. Regardez, lorsqu'on discute avec nos amis du logement social, et même s'ils vont pas être d'accord avec ce que je veux dire, ce ne sont pas les plus mal lotis, mais simplement, ils ne savent pas non plus où on veut les emmener. Donc quand on n'a pas de ligne de route, de feuille de route, quand on n'a pas de ligne très précise, je comprends qu'ils s'inquiètent et qu'eux aussi, ils soient sur la pédale de frein. Mais par contre, au niveau des Français, de ceux qui veulent investir dans un logement, de ceux qui veulent acheter un logement, c'est un problème budgétaire. Donc voilà, il faut remettre, à mon avis, le débat au niveau où ça bloque, c'est le budget, rien que le budget. Donc on peut nous raconter tout ce qu'on veut, s'il n'y a pas de mesures budgétaires d'accompagnement, ça ne marchera pas.
Extrêmement clair. Merci Jacques Lanu.
Avec grand plaisir.
Président de la SMABTP, je constate avec beaucoup de plaisir que vous n'avez rien perdu de votre vigueur. C'est réjouissant de vous écouter. Et en même temps, ça fout les jetons, je vous le dis.
Oui, parce que mais ce que vous dites... le pire n'est toujours pas certain. Et encore une fois, ce qu'il peut faire cette année pourrait être fait l'année prochaine.
Il n'est pas certain, mais il n'est jamais décevant non plus, donc on ne sait jamais.
Mais continuons à argumenter, parce que je pense quand même que le principe de réalité va un jour sortir. Et qu'enfin... le logement sera reconnu comme une véritable industrie nécessaire pour ce pays, non pas que pour les entreprises d'ailleurs, mais nécessaire pour nos compatriotes.
C'est clair. Et il faut rappeler juste une chose, c'est la dépense la plus contrainte des Français, et c'est surtout l'habitat, le lieu de l'intime, le lieu de l'histoire et le lieu aussi où se définissent les projets de vie professionnels et personnels. Merci Jacques Chanu.
Merci à vous.
On va se retrouver encore pour une dernière interview, je crois, et ensuite on se retrouvera dès demain matin à 9h.
Le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, en partenariat avec Procivis sur Radio Immo et Radio Territoria.